Donc, je suis maintenant avec Yann Breuleux. Yann, tu es professeur à l'École NAD UQAC. Tu es spécialiste en musique visuelle, entre autres, et aussi en environnement et expérience immersive, notamment en format full dome. Et tu viens de parler hier à ICA. Tu as fait un talk qui s'appelle « Matière première, raw material, reimagining the self as an environment in extended reality ». Est-ce que ça t'irait, comme c'est la première fois qu'on t'a dans un épisode de REC, d'introduire à ton parcours et à ta pratique, s'il te plaît?
Oui, si je résume de manière la plus synthétique, en fait, j'ai étudié en art visuel pour débuter. J'ai eu une pratique ensuite de vidéo art où j'ai réalisé plusieurs performances et plusieurs expérimentations en collaboration, entre autres avec Alain Thibault, où on a réalisé plusieurs pièces à ABC, Light, etc. Et par la suite, j'ai voulu comprendre un peu la relation entre l'art et la technologie et j'ai décidé d'aller faire un diplôme en design industriel où j'ai fait une maîtrise avec Luc Courchaine sur un dispositif immersif, panoramique, interactif en collaboration avec les Muséums de nature de la Ville de Montréal qui a été exposé pendant 2 ans dans le métro de Montréal. Donc après cette expérience d'immersion dans les arts numériques, puis une meilleure compréhension des différentes formes d'échange entre la technologie et l'art, j'ai ressenti le besoin, parce que ça faisait plus de 10 ans que je travaillais avec des compositeurs, d'approfondir ma compréhension de la composition. Et donc, j'ai décidé de faire mon doctorat en musique avec Jean Piché sur les relations entre les visuels et la musique. Et je me suis particulièrement attardé à la question de la synthèse granulaire en relation avec les systèmes de particules au niveau visuel. J'ai vu plusieurs correspondances en termes de traitement, mais pas nécessairement des correspondances technologiques, mais plutôt des correspondances sensibles. Et à la suite de mon embauche à l'École NAD en 2012, j'ai décidé de me concentrer sur la création d'expériences full dome. Donc, j'ai commencé par un projet qui s'appelait VJ Graph, ensuite Nuée Swarm. Et donc, j'ai toujours... en fait, dans mon processus, je commence par une création. Et ensuite, de la création, je dégage des problématiques de recherche. Et donc là, je fais une autre création où je crée une seconde version de la création influencée par ces problématiques. Et donc, depuis 2012, il y a ce dialogue constant entre création, recherche, création, recherche. Et là, avec le projet Matière première que j'ai présenté dans le cadre de ISEA, je dirais que j'explore une approche qui est l'idée de artistic research, selon Borkhoff. Donc, l'idée de véritablement que la création et la recherche soient une seule et même chose, entité. Ouais.
Bien, merci beaucoup. Et justement, par rapport à matière première que tu viens de présenter hier, est-ce que tu pourrais nous introduire un peu au contenu de ta communication?
Oui. Matière première est un projet qui a débuté pendant la pandémie par un simple test technique. C'est-à-dire, j'ai numérisé mon visage et je me suis dit que je vais l'amener dans un logiciel 3D. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai multiplié pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Et là, en multipliant, je me suis rendu compte que je pouvais créer des environnements. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée de prendre mon visage, mais de le transformer en environnement. Et donc, là, j'ai ajouté des lumières. Et puis, je me suis rendu compte que pendant la pandémie, tout le monde était assez isolé. Et donc, parfois, j'avais du temps pour faire de la création, puis j'ai commencé à faire ce qu'on pourrait appeler une forme de in-game photograph, une pratique de photographie en contexte de jeu, c'est-à-dire j'ai créé un environnement et je me promenais à l'intérieur et quand je trouvais des points de vue intéressants, je prenais une image, donc un monotype. Et là, le choix était simplement guidé par le plaisir esthétique. Je trouvais l'image intéressante et belle. Ben, il se trouve que ma fille est passionnée des insectes, est passionnée par les pierres, passionnée par la nature en général. Et j'étais allé au Salon des minéraux. C'est vraiment extraordinaire la variété de la nature, la variété esthétique. Et donc, on dirait que la beauté des pierres, comme Kaiowa, qui a écrit justement un ouvrage sur les pierres. Et c'est vraiment un monde passionnant. Et je me suis rendu compte que je pouvais transformer mon visage par les jeux de lumière puis la géométrie des pixels à quelque chose qui ressemblait à l'intérieur d'une grotte ou d'un espace rocailleux. Et c'est de là qu'est arrivé le titre matière première, c'est-à-dire que mon visage est devenu une matière première pour la création d'expériences. Et là, je suis tombé plutôt en artistic research, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à systématiser, à explorer la transposition de l'environnement en plusieurs espaces. Je m'intéresse beaucoup aux environnements narratifs, donc comment l'environnement raconte sa propre histoire et comment, par le déplacement à l'intérieur de l'environnement, on peut créer différentes formes narratives. Donc, c'est ce déplacement-là à l'intérieur de l'environnement qui a commencé à m'intéresser. Et là, je suis allé vers le Full Dome pour recréer la même expérience esthétique que j'ai eue quand j'ai pris mes premières photographies, mais sous une forme, dans un format Full Dome. Et quand je créais les photos, j'avais l'habitude de prendre des points, d'enregistrer les coordonnées dans l'espace. Et j'ai décidé simplement de créer une interpolation entre les différents points que je trouvais intéressants dans l'espace virtuel pour créer des animations. Et j'ai exposé comme ça des tableaux qui sont des longues animations de 9 heures, 8 heures, 12 heures parfois, et qui sont ces lentes interpolations entre les différents points dans l'espace. Donc, ça résume un peu. Et finalement, Matière première, c'est un projet qui explore la remédiation du même contenu sous plusieurs formats, mais la base, c'est toujours la création d'un environnement virtuel. Et pour la pièce Full Dome, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs logiciels, mais j'ai décidé de créer une pièce avec un moteur de jeu. Et là, je dirais que les possibilités ont explosé parce que avec Unreal, j'étais en mesure de créer un espace de 30 000 instances de mon visage. Et ça crée un espace quasi infini. Et là, ça devient intéressant de travailler sur une exploration de soi, mais qui finalement est plutôt une distanciation, parce qu'une fois qu'on est dans l'environnement, je vois pas nécessairement mon visage, mais bien un espace virtuel complexe et abstrait.
Ben effectivement, le rapport vibrant entre la dimension micro, la dimension macro dans ce projet, semble être très important. Il me rappelle aussi le rapport télescopique, le jeu d'échelle aussi, notamment la pièce Powers of Ten de 1977 de Charles et Ray Eames, dans lequel on voit deux personnes dans un pique-nique, mais après la caméra s'éloigne tellement, vers le plus absolu, vers la plus absolue dimension de l'univers, et ensuite elle rapproche encore une fois pour aller dans la main d'un des personnages, encore une fois dans la plus absolue immensité de sa composition atomique. Je trouvais des parallèles justement en t'écoutant parler hier. Puis finalement, l'échelle, les formats, en fait, jouent un rôle si important. Je venais aussi te poser la question sur le rôle de la lenteur. Justement, tu viens de dire que dans une des itérations de ton projet, il y avait des grands tableaux qui étaient des vidéos très 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 lents. Et tu as dit hier que on réalisait que c'était une vidéo uniquement si on quittait l'installation et on revenait quelques minutes, quelques heures plus tard. À ton avis, quel est le rôle de la lenteur dans un côté, je vais te poser la question à deux niveaux, dans un projet de recherche-création et dans un deuxième niveau, dans une expérience immersive?
Oui. En fait, je vais répondre à la question, mais tu as un petit commentaire avant, puis je vais le commenter, puis après je vais parler de la lenteur, parce que c'est un peu lié, en fait. Mm-hmm. Quand on parle de l'échelle, l'échelle en 3D, c'est tout. Hein, tu sais, c'est dans le fond, c'est quand on crée un environnement virtuel, puis on prend nos objets, puis on le met dans l'environnement virtuel et qu'on se retrouve en échelle 1 avec notre objet, on se rend compte qu'on n'a pas compris vraiment c'est quoi l'échelle en 3D. C'est une échelle relative. Et là, on se retrouve soit avec un petit objet ou avec un building complet. Donc, des fois, il faut réajuster notre conception. Et dans le cas de matière première, les déplacements de la caméra sont micro. Parfois, quand je suis très, très près d'un objet, j'ai seulement bougé dans la caméra, mais très, très, très légèrement, pour créer un très grand changement dans l'image. Mmh. À cause du fait que je zoomais, puis j'allais chercher un petit morceau. Et là, l'échelle des objets avait l'air immense, mais en fait, c'est parce que je me rapprochais vraiment très près des points. Donc, j'avais cette impression-là d'avoir un microscope, là, puis de juste bouger légèrement la caméra et bouger légèrement. Donc, on est dans un endroit où l'espace est très... où les distances entre un millimètre change complètement la perspective de l'image parce qu'on est très, très, très rapproché. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans ce contexte-là, quand je créais des interpolations, je me retrouvais avec un stroboscope. Là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré mes timelines pour créer des interpolations extrêmement lentes entre les différents points. Sachant que les points étaient très, très, très rapprochés, j'ai dû créer de très, très, très longs timelines pour créer ça. Et donc, dans le contexte du projet, la lenteur, elle joue un rôle sur plusieurs niveaux. La première, c'est plutôt une question de la perception du temps, mais ça, c'est lié à mon expérience de Bill Viola, qui a beaucoup travaillé sur la lenteur, mais la lenteur en lien avec la perception. La perception du temps, la perception du passage du temps, etc. Donc, ça fait partie de ma formation. Donc, évidemment, quand je travaille avec l'animation vidéo, ces choses-là sont très importantes. Et je dirais que dans le cadre du projet, je laisse place à des impressions plutôt d'ordre phénoménologique, dans la mesure où je me souviens quand j'étais enfant, je regardais les nuages, puis je me disais, ah tiens, les nuages sont immobiles, bougent pas. Mais si je relève ma tête 2 heures plus tard, le ciel a complètement changé. Donc je m'étais rendu compte de ça, parce qu'on me disait que j'étais tout le temps dans la lune, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu plus le ciel. Mais donc quand j'étais enfant, j'avais eu cette perception-là, mais on dirait qu'aujourd'hui, quand on lève notre tête, qu'on regarde les nuages, je pense qu'à cause de l'accélération du climat, il y a toujours plus de vent, il y a plus d'orage aussi. Et donc le ciel change plus rapidement. Et ça m'a amené une réflexion justement sur le changement, le passage du temps dans une œuvre médiatique. Et en art médiatique, souvent aussi, quand on veut créer des expériences sensorielles, on a tendance à remplir l'espace, puis à remplir le temps. Puis, et dans une société qui est guidée par l'attention, où l'ennui arrive très rapidement, je pense qu'on a un peu de difficulté à apprivoiser la lenteur. Donc d'un côté, on a des expériences sensorielles qui sont toujours extrêmement violentes pour l'esprit, mais je me dis, est-ce qu'on peut conserver l'attention, mais à travers des passages temporels très, très progressifs, sans rupture. Et l'absence de rupture, en fait, est aussi une condition d'immersion. Donc, c'est pour ça que la lenteur m'intéresse. C'est que l'environnement change toujours, mais change toujours extrêmement lentement. Et quand on trouve le bon réglage entre lenteur et transformation de l'environnement, c'est extrêmement captivant parce que on ne voit pas les changements, mais l'environnement change en constante mutation. Et il y a un autre, par rapport à ça, il y avait Norman McLaren, qui était un animateur, tu sais, qui a fait énormément d'animation. J'avais lu dans un ouvrage le concernant, il disait que c'est toujours plus difficile de faire quelque chose de lent que de faire quelque chose de rapide. Donc, la rapidité rime parfois avec la facilité. Donc, d'apprendre à ralentir, c'est apprendre à guider l'attention et de travailler de manière plus effective avec l'esprit humain. Après la conférence, j'avais une discussion, puis je disais, le disque dur, c'est pas dans la machine, c'est dans l'esprit de la personne qui regarde. C'est là que, comme artiste médiatique, c'est là qu'on écrit. Et donc, et c'est là que le vrai message s'inscrit. Donc, après, la question, c'est, est-ce que chaque personne peut recevoir le message différemment? De quel type d'écriture on parle. Et donc, ça fait partie des questions qui sont portées par le projet.
Mais justement, et je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est des questions qui m'interpellent de côté de ma pratique aussi. Mais tout à fait, tu viens de dire la rapidité va ensemble avec la facilité, mais la facilité ne va pas forcément ensemble avec la simplicité non plus. Puis créer des expériences qui soient simples dans leur complexité, c'est aussi extrêmement difficile.
Oui.
Justement, dans les discours, tu vas nous mobiliser dans le bon réglage, à trouver le bon réglage entre la transition, la vitesse de la transition dans l'expérience immersive. Ben, merci beaucoup. Je veux évoquer une phrase qui était présente dans ta présentation hier, qui était une citation de Nam June Paik, qui est « We are in open circus ». On est dans des circuits ouverts. Comment est-ce que tu interprètes cette phrase?
En fait, comme je venais en Corée, Parce que, bon, la base du projet, en fait, parce que dans le projet, étant donné que c'est un projet de recherche artistique, bien, je laisse aller mes idées sur l'art, etc., sans vraiment me demander si il y a un précédent, ou qui a dit ça, ou qui a dit quoi, puis d'être placé dans une structure plus académique. Mais bref, dans le projet, je m'interroge vraiment sur la question du sujet, en fait. Le sujet moderne m'interpelle depuis longtemps, parce que, bon, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une reconfiguration, si on veut, mais entre autres à cause des camps de concentration puis du désastre nazi. Il y a eu une reconfiguration des structures de l'art. Et dans l'art, entre autres dans l'expressionnisme abstrait, on a laissé une grande place à la liberté, à l'action, au mouvement. Et il faut voir que ce mouvement-là, cette liberté d'action-là, avait un message politique. Hein. On parlait de liberté de l'individu, la liberté d'action, la liberté d'expression, en fait. Et donc... Et aussi, je me suis rendu compte que dans le lien avec les technologies, l'artiste souvent se pose des questions sur l'art, mais aussi comment, dans ce contexte-là, l'art permet de transformer sa propre subjectivité. Et donc, la création artistique est toujours une relation à la fois à la création, à l'expression de soi, mais c'est pas nécessairement une expression pour exprimer son intériorité, mais plutôt pour opérer un dialogue entre la création et notre propre vision du monde. Et finalement, on se sert des créations pour transformer notre vision du monde, pour avoir une espèce de miroir qui va nous offrir des réponses sur le monde contemporain, etc. Donc, Nam June Paik, quand il dit « We are an open circuit », il dit que nous sommes des machines ouvertes en échange constant avec les autres. Et Nam June Paik a lu Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique. Il cite d'ailleurs plusieurs fois dans un de ses textes. Donc, il s'interroge sur l'être humain comme machine, mais comme machine ouverte au social, à la communication, à l'interaction. Et Nam June Paik, avec cette citation-là, propose une vision. Lui parle de la technologie comme d'un pouvoir transformatif sur l'individu. Donc, c'est un peu en dialogue avec l'idée de Nam June Paik et le projet Matière première. Ou Matière première, finalement, c'est une interrogation sur qu'est-ce que l'intériorité, qu'est-ce que l'expression de la singularité. Et comme le projet est majoritairement composé d'abstractions géométriques, c'est une sorte de réflexion, de dialogue avec l'expressionnisme abstrait, mais transposé dans un contexte full d'ombre. Donc, en ce moment, j'ai commencé un autre projet en lien avec avec Matière première qui s'appelle le cycle moderne. Et dans le cycle moderne, je vais encore plus près de cette idée-là, d'une interrogation, et je développe aussi des essais en format full dome, où là, je me dis, bon, ben, il y a les intentions qui sont derrière l'œuvre, mais j'espère être encore plus explicite, donc en développant carrément un discours sur la question du sujet en lien avec les dispositifs immersifs.
Et comment un aspect a la capacité de transformer l'autre?
Oui, c'est ça. Par exemple, il y a un des projets que j'ai fait qui est un essai immersif à partir de la pensée de Günther Anders, où lui proposait le concept d'inversion d'imagination. Alors, ce que Günther Anders disait, en fait, c'est un philosophe des techniques, c'est le penchant plus sombre de Marshall McLuhan, si on veut, c'est l'opposé. Donc, Günther Anders était vraiment un penseur de la technique, mais extrêmement... Pas nécessairement nihiliste, mais extrêmement sombre dans son rapport à la technologie. Mais il a beaucoup travaillé sur les questions du nucléaire. Donc, par exemple, il disait que la bombe nucléaire, même si elle n'explose pas, elle change notre conception du monde. C'est-à-dire que même au repos, chaque individu est influencé par la possibilité même qu'un jour une bombe nucléaire puisse exploser à nouveau dans une ville ou dans une... Et donc, lui parle plus de la technique comme un espace mental, un environnement qui conditionne nos représentations. Et dans son texte sur l'inversion de l'imagination, il dit que les êtres humains ont développé des outils qui dépassent leur capacité de compréhension du monde. Et d'une certaine façon, Il dit que les catastrophes sont provoquées parfois par un manque d'imagination, c'est-à-dire que les gens ne saisissent mal le pouvoir de leurs outils et le pouvoir de nuisance de leurs outils, et ils donnent leur rôle à l'artiste de créer des visualisations qui permettent d'élargir le champ de l'imaginaire pour qu'on puisse comprendre comment les outils, comment les technologies qu'on utilise exercent une influence sur notre environnement et sur notre propre singularité aussi. Donc, dans le projet d'inversion d'imagination, je reprends la philosophie de Gunther Anders, mais à l'intérieur d'une espèce de forêt complexe, et on monte progressivement dans la forêt, puis c'est comme une forme de méditation. Et donc, j'ai commencé ce cycle-là, mais aussi de la poésie visuelle, une espèce de poème sur la pensée des modernes et l'expression. Donc, je reprends ces idées-là, mais dans une forme plus directe, moyée à l'exploration de ma propre personne, en fait.
Est-ce que tu as des dates de présentation?
Du projet? Mm-hmm. Bon, en ce moment, j'ai plutôt 7-8 vidéos que j'ai faites, mais j'ai rien présenté. Puis, en ce moment, je me pose des questions. Mais je les ai présentées une fois dans un dispositif qui s'appelle Chromosphère en Italie. Mais j'ai juste envoyé au commissaire, j'ai dit pour l'année prochaine, j'aimerais te montrer quelques projets. Puis il m'a dit, je sais pas pour l'année prochaine. Je pense que c'est lié à ce qui se passe en Italie en ce moment. Et donc, il a décidé de créer une séance spéciale 3 jours après. Donc, mm-hmm. J'étais surpris. Je dis, bon, là, j'ai reçu l'invitation à ma propre présentation par Internet ensuite. C'est ça. Donc, présentation à Rome. Et Ricardo Delfara a présenté un des projets dans une programmation aussi au Brésil. Donc, le projet suit son cours. Je l'ai montré 2 fois dans des contextes assez spécifiques. Mais là, ce que je veux, c'est maintenant, c'est les projets que j'ai réalisés, si je conclue là-dessus, c'est des esquisses, c'est des projets full d'ombre, mais que j'ai réalisés en une journée ou des fois 3 heures. Donc, c'est un peu comme des tableaux, c'est des esquisses. Je lance une idée, je la fais très rapidement. Donc, là, je me pose la question, est-ce que je suis allé à l'étape de la systématisation, où est-ce que je peux aller? Je dis souvent aux étudiants qu'il n'y a jamais de mauvais projet, qu'il n'y a que des promesses mal tenues. Et donc, dans mon cas, j'essaie de voir c'est quoi les promesses du projet et jusqu'où je peux pousser l'idée qui est sous-jacente à ce projet-là.
Ben, c'est parfait. Mais pour l'instant, on a rendez-vous à Rome l'année prochaine et on reste à feu pour la suite. Et finalement, pour finir notre entretien, et merci beaucoup Yann pour être ici avec nous. Si tu devais conseiller une activité, un talk, une exposition à voir à ICA en 2025, je suis consciente que je te pose une question dans une vaste immensité des choix. Et ça serait quoi?
Bien, je viens d'assister à l'instant même à une présentation que j'ai adorée, mais en fait, c'est très égoïste de ma part, mais c'est parce que c'est en phase avec mes intérêts de recherche futurs et qui porte sur une œuvre, une composition écrite que Nan June Paik a écrite en 1961 qui s'appelle 20 Rooms, où il détaille une expérience immersive ou une expérience, en fait, de 20 pièces avec des expérimentations audio, vidéo, tactiles dans chacune des pièces. Et je viens de voir une présentation sur le projet 20 Rooms. Et désolé, ça fait 15 minutes donc j'ai oublié le nom, peut-être le rappeler dans le podcast. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est un projet qui repose sur la remédiation, les réactualisations d'archives, mais qui aborde des archives aussi du côté de la réinvention et de la découvrabilité aussi. Donc, comment prendre une archive et la réactualiser dans le monde contemporain, mais aussi en la réinterprétant en lien avec les technologies actuelles. Donc, il y a vraiment des problématiques qui me touchent. Et donc, c'était vraiment intéressant, le projet, en collaboration avec, je crois, le musée Nan June Paik de Séoul et un groupe de chercheurs. Donc, c'était très intéressant.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et passe une excellente continuation de symposium.
Super, merci.